La princesse Clémence, elle aussi, se conduisait de façon exemplaire. Réfugiée dans le paradis, grande chambre aménagée pour les hôtes royaux dans le château d'arrière, elle exhortait au calme ses dames suivantes qui, pareilles à un troupeau de brebis apeurées, bêlaient et se cognaient aux parois à chaque coup de mer. Clémence n'eut pas un mot de regret lorsqu'on lui annonça que ses coffres à robes et à bijoux étaient passés par-dessus bord. « J'aurais bien donné le double, dit-elle seulement, pour que nos braves mariniers n'eussent point été assommés par le mât. » Elle était moins effrayée de la tempête que frappée par le signe qu'elle y voyait. « Voilà, ce mariage était trop beau pour moi, » pensait-elle. « J'en ai conçu trop de joie, et j'ai péché par orgueil. Dieu va me naufrager, parce que je ne méritais pas d'être reine. » Le cinquième matin de cette affreuse traversée, la princesse, alors que le navire se trouvait dans un creux de vent, mais sans que la mer semblât vouloir s'apaiser pour autant, aperçut le gros Bouville, pieds nus, en simple cotte et tout échevelé, qui se tenait à genoux les bras en croix sur le pont du vaisseau. « Que faites-vous donc là, messire ? » lui cria-t-elle. « Je fais comme Monseigneur Saint-Louis, madame, lorsqu'il faillit être noyé devant Chypre. Il promit de porter une nef de 5 marques d'argent à Saint-Nicolas de Varangeville, si Dieu voulait le ramener en France. C'est messire de Joinville qui me l'a conté.
Je promets d'en offrir autant à Saint-Jean-Baptiste, dont notre nef porte le nom, dit alors Clémence. Et si nous réchappons, et que Dieu m'accorde la grâce d'avoir un fils, je fais vœu d'appeler ce fils Jean.
Mais nos rois ne se nomment jamais Jean, madame.
Dieu en décidera.
Elle s'agenouilla aussitôt et se mit en prière. Vers l'heure de midi, la violence de la mer commença de décroître, et chacun reprit espoir. Puis le soleil déchira les nuages. La terre était en vue. Le capitaine reconnut avec joie les côtes de Provence et plus précisément, à mesure qu'on approchait, les calanques de Cassis. Il n'était pas médiocrement fier d'avoir maintenu son navire en direction.
« Vous allez nous faire aborder au plus vite à cette côte, je pense, maître marinier, dit Bouville.
« C'est à Marseille que je dois vous conduire, messire, répondit le capitaine. Et nous n'en sommes guère éloignés. De toute façon, je n'ai plus assez d'encre pour mouiller auprès de ces rochers. »
Un peu avant le soir, le San Giovanni, mu par ses rames, se présenta devant le port de Marseille. Une embarcation fut mise à la mer pour prévenir les autorités communales et faire abaisser la chaîne qui fermait l'entrée du port entre la tour de Malbert et le fort Saint-Nicolas. Aussitôt, gouverneurs, échevins et prud'hommes accoururent, ployés sous un fort mistral, pour recevoir la nièce de leur suzerain, car Marseille était alors possession des Angevins de Naples. Sur le quai, les ouvriers des salines, les pêcheurs, les fabricants de rames et d'agrès, les calfats, les changeurs de monnaie, les marchands de quartier de la juiverie, les commis des banques génoises et siennoises contemplaient stupéfaits ce gros vaisseau sans toile, dématé, rompu, dont les matelots dansaient et s'embrassaient sur le pont en criant au miracle. Les chevaliers napolitains et les dames d'escorte tâchaient à mettre de l'ordre dans leurs toilettes. Le comte de Bouville, qui avait maigri de plusieurs livres et flottait dans ses vêtements, proclamait à la ronde l'efficacité de son vœu et semblait considérer que chacun devait la vie à sa pieuse initiative.
« Messire Hugues, lui dit Guccio avec une pointe de malice, il n'est pas de tempête à ce que j'ai ouï dire, ou quelqu'un ne prononce un vœu semblable au vôtre. Comment expliquez-vous alors que tant de navires viennent quand même à couler ?»«
C'est qu'il se trouve sans doute à leur bord quelques mécréants de votre espèce !» répliqua en souriant l'ancien chambellan.
Guccio fut le premier à sauter à terre. Il s'envola de l'échelle, léger, pour prouver sa vaillance. Et aussitôt, on l'entendit hurler. Après plusieurs jours passés sur un plancher mouvant, il s'était mal reçu au sol. Le pied lui avait glissé sur la pierre visqueuse et il était tombé à l'eau. Il s'en fallut de peu qu'il ne fût broyé entre le quai et la coque du bateau. L'eau devint rouge en un instant autour de lui. Dans sa chute, il s'était déchiré à un crochet de fer. On le repêcha à demi évanoui, sanglant et la hanche ouverte jusqu'à l'os. Il fut aussitôt transporté à l'Hôtel-Dieu.